France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Le cri du patchwork.
Chers écoutants, bienvenue dans Le Cri du Patchwork, une émission qui secoue les clichés. Nouvelle étape dans notre thématique du mois d'octobre, la liberté. Et aujourd'hui, nous parlerons d'improvisation libre avec Clément Cannon, chargé de recherche au CNRS, qui s'est plongé dans l'étude de l'improvisation collective auprès de ses différents acteurs. Pour nous, c'est l'occasion de faire un point sur ce que l'on nomme improvisation libre, en se posant la question, peut-on vraiment improviser librement ? Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, séquence hebdomadaire pour nous faire entendre un anonyme par sa voix et ses bruits. Et comme chaque mardi, un son sportif. Le cri du patchwork, thème numéro 29, épisode numéro 4, séquence numéro 1.
Hé, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Le ping-pong, ou plutôt le son de la balle de ping-pong, avec sa capacité à rebondir indéfiniment, ou plutôt anarchiquement. Comme l'utilise Jean-Pierre Drouet dans La Fuite, composée pour les percussions de Strasbourg, les multiples rebonds de plusieurs balles de ping-pong se mêlent à un fatras de sons du quotidien. Fourchettes, graviers et autres gargarismes noient les menus. La balle de ping-pong peut ainsi devenir un instrument de percussion pour créer des rebonds que l'on pourrait qualifier de libres. George Benjamin dans At First Light, composé pour grand orchestre en 1982, utilise une balle de ping-pong qu'il faut lancer dans un verre. Le compositeur le spécifie, plus profond est le verre, plus la balle rebondira. Cette idée sonore est une forme d'imitation du rebond des archets sur les cordes des violons et autres violoncelles, dans cette musique qui semble s'éteindre par petits rebonds. Attention, c'est infime, tendez l'oreille. mais on peut tout à fait contrôler le rebond d'une balle de ping-pong, surtout si elle est jouée au cours d'un match de ping-pong. Le projet sportif de Ravi P3Z, surnom de DJ espagnol Javier Vicente Calderón, regroupe plusieurs pratiques sportives mises en musique avec un orchestre, dont évidemment le ping-pong. À partir de la rythmique, semble-t-il, régulière d'échanges de ping-pong, Ravi P3Z imagine une salsa tout azimut où tente de réémerger difficilement ses sons de tennis de table, en ballant. Le son d'une balle de ping-pong avec le rim shot d'une caisse claire de batterie. Mais si vous savez, lorsque l'on tape avec la baguette sur le cadre en métal de la caisse claire. Art Blackie and the Jazz Messengers dans Ping-Pong. La particularité d'une rythmique d'échange de ping-pong, c'est l'asymétrie des cellules rythmiques entre la frappe sur la raquette et le rebond sur la table. Alors évidemment, ça en a inspiré plus d'un. Petit patchwork de morceaux commençant en ping-pong.
The ball, watch the way I climb around your hall, walking up walls, sideways and I stall, throw the web on you all, back up with a U-Haul, wreck your rep like Eddie on an LA strip with RuPaul, yeah you got the gall, a bitch in a shawl, rocking the mall, popping pussy, knocking niggas on Raw, talking about he got a crazy Benz, patting pussy every second, where's the ATMs?
Do you know the Je t'envoie mon cœur à coups de raquette, mais tu le rejettes d'un petit air moqueur. Dans ses battements de cellules, Loïd, au tic-tac rapide, il va palpitant. En un balai bronzé, tes jambes vont et viennent au rythme du panache flou de tes cheveux.
Ah, oh, Marcel Amo et son ping-pong. En vrac, nous avons entendu Antipop Consortium, DVA, Enrique Iglesias, Wilfried et DJ Morpheus. Jouer au ping-pong pour faire une pause. On pense à une photo fameuse d'Arnold Schoenberg jouant au tennis de table, même si on a du mal à l'imaginer ainsi après avoir entendu sa musique. Ou encore à l'album Cannes du groupe Cannes en 1979, dans lequel un petit intermède entre kalimba et ping-pong nous fait souffler, ou plutôt reposer, nos oreilles. Après une petite pause, on repart de plus belle, avec des idées musicales toujours plus folles à partir du ping-pong. À la toute fin du festival chinois Missa de 2015, le public a eu l'occasion d'entendre en création le concerto pour violon, orchestre et ping-pong du percussionniste et compositeur Andy Akio. Demandant la participation de deux pongistes, c'est-à-dire des joueurs de ping-pong professionnels de haut vol, le compositeur a écrit une réelle partition pour eux, leur demandant d'avoir des échanges de différentes longueurs et intensités, de faire rebondir la balle sur une grosse caisse ou de jouer avec des tambourins à la place des raquettes. Andy Akio, dans cette pièce virtuose, fait monter la sauce jusqu'au final tonitruant, impliquant le lancer de milliers de balles de ping-pong sur la table. J'aurais bien voulu être là pour voir ça. L'orchestre de musique expérimentale du DOC, mené par Jean-Baptiste Pérez depuis 2012, donne à deux plongistes le rôle d'architecte de la musique qui se jouera en direct. Chaque musicien de l'orchestre possède une partition lui permettant de suivre le déroulement du match, chaque point déclenchant un mode de jeu, un son, une interaction entre les musiciens. Il va sans dire que chaque match et donc chaque pièce sont différents. Tout dépend du niveau des plongistes. Pièce pour orchestre et match de ping-pong de l'Omédoc.
Julie A. Julie B.
Julie C.
Julie D.
Julie E.
Johan A.
Johan B.
Johan C.
Johan D.
Johan E.
0-0.
Gérer l'imprévu des balles de ping-pong et leur fâcheuse tendance à ne pas rebondir où l'on voudrait. Le compositeur Alain Louvier, dans ses préludes pour cordes de 1970, donne à entendre et voir des situations sonores autour d'un ou de plusieurs pianos. Dans cette version superposant les préludes 1, 3 et 4, on entend à la toute fin des balles de ping-pong égrener leur rebond. Serait-ce dans le piano ? Il ne semble pas. Peut-être sur le couvercle du piano. En tout cas, ces menus objets rebondissants coupent la chic à cette musique dense et rugissante.
Vous voyez qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Clément Cannon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicologue et chargé de recherche au CNRS, au sein de l'équipe L'analyse des pratiques musicales. Et votre spécialité, on peut le dire vraiment comme ça, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'improvisation collective, qui est vraiment un phénomène incroyable, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent à un endroit et qui improvisent ensemble. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut vraiment improviser librement ?
Bon, on attaque directement par la question peut-être la plus massive qu'on peut poser à cette pratique, à cette forme de pratique, l'improvisation libre, l'improvisation collective libre. C'est extrêmement compliqué, il y a eu énormément de débats pour savoir si on pouvait vraiment qualifier cette pratique de libre. Et évidemment, toutes les objections qu'on va pouvoir adresser, c'est... Il n'y a pas quelque chose comme une génération musicale qui serait absolument spontanée. On est toujours déterminé par un apprentissage, des conditions spatiales, sociales, l'instrument, les instruments, le public, pas de public, tout seul, avec d'autres, etc. Et tout cet ensemble de conditions, finalement, viennent me contraindre dans mon action. C'est évidemment dans mon action musicale. C'est évidemment vrai et incontestable, mais bon, il en est de même de toutes les actions humaines. Donc je dirais, il ne faut pas opposer cette question de l'improvisation libre à une question de l'improvisation qui serait sans condition. Il n'y a pas d'improvisation sans condition. Toute action musicale se fait dans un certain nombre de conditions. Donc peut-être la variable qu'il faut faire jouer, c'est celle de contrainte. Il y a des improvisations qui sont plus ou moins contraintes, qui sont plus ou moins préalablement contraintes, dont les éléments qui viennent déterminer la performance sont plus ou moins justement fixés en amont de cette performance.
Et c'est vrai que les contraintes sont énormes pour un musicien, en particulier lorsqu'on vient par exemple du jazz, vraiment, parce qu'on parle aussi de musiciens qui viennent d'autres univers que le jazz aujourd'hui. Oui. Et c'est le cas par exemple de personnes comme John Zorn ou Yves Robert, qui sont deux musiciens qui viennent vraiment de la tradition improvisée du jazz, sur gris aussi également. Et c'est pour ça aussi qu'on les rapproche peut-être plus de l'univers du free jazz que de l'improvisation totalement libre. Oui. Le free jazz est déjà lui-même un enfant de processus qui ont précédé, que ce soit le hard bop ou d'autres styles musicaux du jazz, qui ont mené au free jazz. Oui. Du free, en fait, il n'a de liberté, il n'a que se détacher d'un carcan harmonique, d'un carcan rythmique.
C'est exactement ça. Bon, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle l'improvisation libre, la free music, improvisation générative, improvisation non idiomatique, il y a tout un tas de noms qui circulent et qui peu ou prou renvoient à la même sphère, à la même nébuleuse de pratiques musicales. Cet ensemble de pratiques a plus ou moins de grands ancêtres. Donc, il y aurait d'un côté le free jazz, puis de l'autre, des expériences viennent plutôt du monde de la musique savante contemporaine, qu'elle soit déroulée en Europe ou aux États-Unis, et qui ont travaillé, mais je crois que vous allez aussi en parler dans cette série d'émissions, les notions d'ouverture, d'indétermination, etc. Pour revenir sur le free jazz plus précisément, en effet, l'histoire du free jazz a son origine, donc c'est vraiment la fin des années 50, le début des années 60, hein, le tout début du mouvement du free jazz, c'est un mouvement de libération, je dirais, au sens très simple et très premier du terme. Donc, je ne sais pas si c'est encore déjà de ce qu'on appellerait de l'improvisation, mais en tout cas, c'est une musique qui se libère de quelque chose, une pratique musicale qui se libère de quelque chose. Et effectivement, ce quelque chose dont elle se libère, au premier chef, il y a tout aussi un arrière-plan politique, etc., mais au premier chef, musicalement, c'est ce qu'on appelle la grille du musicien de jazz, le standard ou la composition originale. Donc, un déroulé harmonique, une pulsation, tempo, en général plus ou moins fixé, un thème qui va fournir un réservoir de motifs pour la performance, etc., etc., ce qu'on appelle la grille. Et le premier geste d'affranchissement, on va dire, des musiciens de free jazz, donc Cecil Taylor, Ornette Coleman, John Coltrane à la fin plutôt de sa carrière, ça va être de s'affranchir de cette grille, donc progressivement de se passer d'abord d'une grille harmonique, puis d'un tempo fixe et stable, et puis même de toute notion de matériaux thématiques qui viendraient déterminer la performance en amont de celle-ci.
Et en voici un fameux exemple, c'est une rencontre en 1991, donc de John Zorn au saxophone et d'Yves Robert au trombone. Un extrait d'un duo assez inédit entre John Zorn et Yves Robert, qui a été enregistré en 1991. Alors, lors de journées très particulières, Clément Cannon, c'était vraiment des week-ends, des semaines entières qui étaient organisées de rencontres de musiciens qui n'avaient jamais joué ensemble.
Voilà, c'était le principe. Donc, alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire de ce festival, qui s'appelait, c'est fini, Company Weeks, il a été initié par le guitariste Derek Bellet, qui est vraiment un des pionniers, encore une fois, de ces musiques qu'on appelle improvisation libre, free music, etc., si ma mémoire est bonne, à la fin des années 70, quelque part par là. Et Derek Bellet avait une vision assez particulière de l'improvisation libre. Et en gros, son idée, ça rejoint un petit peu la question que vous posiez au début, c'est qu'il n'y a d'improvisation libre que la première fois qu'on joue ensemble. La deuxième fois, il y a déjà une histoire, il y a déjà un passé commun, il y a déjà des réflexes, il y a déjà des conventions implicites qui se sont créées, on se connaît, voilà. Donc la vraie improvisation libre pour Derek Bellet, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais voilà, c'était son idée. La vraie improvisation libre, c'est celle de la rencontre, c'est celle de la première fois. Donc son idée, c'était de faire un festival, qui durait toute une semaine avec une soirée d'improvisation chaque soir, pour que des musiciens se rencontrent. Alors au début, venant vraiment du milieu vraiment jazz, et donc free jazz. Et puis, au fil des années, le casting, le pool de musiciens invités à ces sessions s'est élargi. On a commencé à avoir des musiciens venant plutôt de la musique classique ou plutôt d'un rock plus ou moins expérimental. Dans cette édition, il y a Buckethead, par exemple, ou de la musique électronique. Enfin bref, on a commencé à ouvrir à différentes manières de pratiquer l'improvisation. Avec cette idée que ce qu'il appelait justement l'improvisation non idiomatique, donc une improvisation qui ne serait connectée à aucun langage préexistant, comme peut l'être le jazz, le flamenco, la musique baroque, etc. Donc ce rêve, sans doute un peu fantasmatique et illusoire, mais d'une improvisation qui serait vraiment affranchie des langages préexistants, deviendra une sorte de lingua franca, de langue partagée, de langue commune à toutes ces communautés musicales, jusqu'ici séparées, et qui enfin pourraient se retrouver par le truchement des musiques improvisées. Mmh. Bon, le duo qu'on vient d'entendre est assez représentatif d'une première rencontre entre deux musiciens de deux continents différents, et qui n'avaient jamais joué ensemble. Alors qu'effectivement, qui ont cet arrière-plan,
un background jazz, quand même, tous les deux.
Exactement.
Leur manière de jouer.
On est très, très clairement ancré dans quelque chose qui vient du jazz. C'est incontestable. Mais vous voyez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pas de grille harmonique, pas vraiment de thème. Pas vraiment de tempo défini, même si ça, il y a des passages qui sont pulsés ou quasiment pulsés, mais ça fluctue, ça bouge. Et puis, ce qui est intéressant peut-être à souligner dans cet extrait, c'est que il y a un côté postmoderne, pour le dire avec beaucoup de guillemets, dans l'utilisation de matériaux très divers, citations qui rappellent un folklore plus ou moins lointain, ou la musique de Stravinsky, ou d'autres choses encore, ou plus loin dans cette improvisation, il y a des choses qui sont presque des phrases et bebop, etc. Donc cette idée, qui est aussi une idée très chère à John Zorn, évidemment, du collage, de la juxtaposition des idiomes, mais qui est chère à John Zorn, mais qui est aussi partagée plus généralement dans les pratiques de ces musiques-là, qui est l'idée que, finalement, la question du langage est peut-être moins déterminante et que on peut s'emparer un peu de tous ces différents idiomes, tous ces différents référents musicaux, comme autant d'outils qu'on va manipuler librement dans le cours de la performance.
C'est parce qu'on a un accord parfait que tout d'un coup on est dans une tonalité, par exemple. Alors je pense à des compositeurs qui, eux, travaillent sur une matière musicale et qui tout d'un coup vont utiliser un accord parfait. Ça reste une matière musicale comme une autre. Et puis d'autant plus, c'est des endroits de rencontre. Là, on l'entend avec John Zorn et Yves Robert, c'est-à-dire qu'ils ont des endroits de rencontre, des endroits où ils se séparent. On a vraiment deux personnes qui se cherchent au fur et à mesure et qui trouvent ces endroits-là, alors qu'ils ne se connaissaient pas auparavant musicalement. Mais quand c'est un groupe, par exemple, comme AMM, un groupe qui, lui, se connaît depuis 40 ans, alors là, c'est un concert qu'on va écouter qui a été enregistré en 1982 à Londres. Le trio là, à ce moment, il est constitué de John Tilbury, Eddie Prevost et Keith Rowe.
Exactement.
Et donc là, c'est des musiciens qui commencent à se connaître par cœur. Oui. Comment est-ce qu'on arrive, et ils ont réussi, on pourrait le dire à eux-mêmes, à trouver une fraîcheur et une liberté d'improvisation alors qu'on sait tout de suite ce que va faire l'autre quelque part?
Oui. Il y a une forme de magie, et quelque part, à eux-mêmes ou d'autres, bien sûr, c'est la réponse à cette petite provocation de Derek Bellet, disant qu'il n'y a de l'improvisation que la première fois, parce que Company Week, c'était formidable et ça donnait beaucoup de choses très très belles. Mais l'histoire de la musique improvisée, des musiques librement improvisées, disons, est aussi faite peut-être beaucoup plus majoritairement de groupes qui ont une histoire partagée, commune, qui jouent ensemble. Alors, peut-être pas pendant 40 ans, mais pendant 2, 3 ans, 4 ans, une semaine. mais en tout cas, qui ont le temps de franchir ce cap de la rencontre et de se constituer quelque chose comme une connaissance commune. Et finalement, c'est, pour prendre un parallèle avec la conversation, si on ne parle pas la même langue, notre échange d'informations peut être qualifié de libre ou pas. Cette question n'a peut-être même pas de sens, puisqu'il n'y a pas vraiment d'échange d'informations. Donc peut-être pour que cet échange soit libre, il faut qu'il y ait le substrat minimum commun pour que, eh bien, on puisse se comprendre, tout simplement.
I'm going to go to the hospital and watch your feet. d'extrait d'un concert donné à Londres en 1982 par le trio AMM, constitué de John Tilbury, Keith Rowe et Eddie Prévost. Alors à savoir, c'est un groupe qui existe toujours, parce que dernièrement il était au Festival Crack, en tout cas en duo avec John Tilbury et Eddie Prévost. Le concert qui a été diffusé d'ailleurs le 12 octobre dernier dans l'émission À l'improviste d'Anne Montaron. Et on recevra justement John Tilbury la semaine prochaine pour parler de son engagement aussi en tant que compositeur avec l'Onseim, un ensemble d'improvisateurs de musique expérimentale. Et ce sera la semaine prochaine. Ici, Clément Cannon, ce qu'on entend ici tout d'un coup, c'est qu'on a vraiment un groupe avec un son incroyable qui va vraiment dans une même direction. Puis, il y a cet élément qui vient de l'extérieur, un objet accidentel qui est vraiment un bout de radio. Et tout d'un coup, tout s'écroule et on sent qu'ils essaient de reconstruire quelque chose. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est là l'improvisation libre, en l'occurrence, c'est vraiment construire au fur et à mesure un état pour aller quelque part?
C'est exactement ça. C'est utiliser, je dirais, le processus comme ressource, le temps comme ressource. C'est pas un hasard si une bonne partie, je veux pas généraliser abusivement, mais une bonne partie des performances, des concerts, des enregistrements d'improvisation libre sont de longs enregistrements. Hein, c'est un set de 30, 40 minutes, 50 minutes, ou beaucoup plus. Hein. C'est des concerts de 2 heures sans problème dans les années 70. C'est mettre en scène une forme d'épuisement, aller jusqu'au bout des matériaux, aller jusque dans l'errance en réalité, aller jusque dans les moments où on ne sait plus où aller, pour trouver dans les ressources mêmes de l'interaction, du rapport entre les musiciens, le moyen de continuer, la porte de sortie qui va permettre de continuer la musique. Ce qui serait beaucoup plus difficile à faire, cette exploration, d'aller vraiment jusqu'au bout d'un processus dans des formats plus courts. Donc cette question de la durée est importante. Vous soulignez également cet objet extérieur qui arrive à un moment donné. Donc c'est la fameuse radio de Keith Rowe qu'il a amplifiée et transformée directement sur le pick-up de sa guitare. Et donc évidemment, ça aussi c'est une ressource importante. Je parlais du processus comme ressource. L'accident en est une autre de ces ressources. Une ressource qui permet de renouveler l'interaction, de créer des chemins impromptus, imprévus, qui vont pouvoir relancer l'interaction dans d'autres directions. Et c'est en partie ces stratégies, ces ressources-là qui sont des réponses justement à la question ou le problème qu'on évoquait tout à l'heure. C'est comment continuer à faire de l'improvisation libre quand on se connaît si bien? Et ben notamment comme ça, en faisant longtemps, en jouant longtemps, oui. Et en laissant advenir les accidents. Alors là, c'est l'accident très contrôlé, parce que Keith Rowe le contrôle, mais c'est pas exactement sur quoi il va tomber. Mais tout un tas d'autres accidents liés à la manipulation instrumentale, aux techniques étendues. John Tilbury joue du piano préparé, ben parfois c'est pas exactement la note ou le son qui était prévu qui sort. Tout ça, ce sont des accidents qui, entre autres, hein, c'est pas du tout la seule chose qui guide l'improvisation. L'improvisation n'est pas une machine à générer de l'imprévu, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ça fait partie des ressources qui sont manipulées, voire utilisées par les musiciens pour créer des brèches dans lesquelles s'engouffrer et reconquérir à nouveau une part de liberté.
Et c'est vrai que dans les accidents, comme vous disiez, il peut y avoir justement une guitare préparée qui fait un son pas du tout prévu, oui. Un objet qui tombe dans un piano. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à la suite d'AMM et de cette expertise, finalement, de cette improvisation collective, on a tout un monde sonore incroyable avec des artistes qui sont de plus en plus experts sur ces nouveaux modes de jeu issus des musiques contemporaines aussi. C'est le cas, par exemple, de Xavier Charles, la clarinette, qui est vraiment expert de tous, oui, ces modes de jeu, oui, et qui est là qu'on va retrouver dans un quartet, dans les arbres, en compagnie de plusieurs musiciens. Alors, je vais essayer de leur dire leur nom. Ils sont norvégiens. Ah. C'est Ivar Grideland, Christian Valumrod et Igar Zak. Et tous les quatre jouent justement une musique qui, à première écoute, semble totalement écrite, en plus dans un temps extrêmement court. Thank you. La somnolence du quatuor dans les arbres. Alors je dis quatuor parce qu'ils sont quatre musiciens, oui, autour de Xavier Charles à la clarinette, Ivar Krideland, Christian Valumrod et Ingar Zak. Mais finalement, on entend ici un méta-instrument vraiment là. C'est, on n'entend pas une clarinette, un piano, on a un objet sonore qui est constitué à quatre personnes avec des touches vraiment. On a l'impression que chacun a un mode de jeu et il reste jusqu'au bout.
Oui.
Clément Cannon, est-ce qu'on pourrait dire finalement que l'objet de la création collective, de l'improvisation collective aujourd'hui, c'est d'avoir une idée et d'aller jusqu'au bout pour ne peut-être pas l'épuiser, mais montrer jusqu'où elle peut aller?
Oui. Bon, là encore, je m'abstiendrai de généraliser, mais c'est clairement une tendance très forte aujourd'hui, enfin, depuis déjà quelques années, voire deux décennies, que le groupe d'improvisation, un de ses objets, c'est de constituer ce son, de construire ce son de groupe. Donc ça aussi, ça interroge la notion d'improvisation libre, parce qu'évidemment, on est à la frontière, en réalité, de l'improvisation libre et de la composition orale. Orale, parce qu'évidemment, elle n'est pas fixée sur du papier, mais il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du geste compositionnel dans la construction, dans la constitution de ce son collectif. Bon, et c'est très, très clair dans le son de Dans les arbres. C'est le son de Dans les arbres, dans son esthétique, ses inspirations, son organologie, une sorte de, vous disiez, méta-instrument, c'est tout à fait ça, de piano préparé étendu. On a une sorte de piano préparé dont la clarinette va poursuivre par des résonances, dont la percussion va augmenter les impacts, la guitare va apporter, enrichir la dimension vibratoire. Voilà, donc on a vraiment construit ils ont vraiment construit cet instrument. Et c'est ça la composition, c'est d'avoir construit cet instrument. Et à l'intérieur de cet instrument, ensuite tout est possible. Mais il y a un cadre, un fragment de territoire sonore et instrumental qui a été, alors comment ça, je ne le sais pas, spontanément ou explicitement, les deux sont possibles, mais en tout cas qui d'une manière ou d'une autre s'est sédimenté, s'est cristallisé. Et c'est à l'intérieur de ce territoire que les musiciens, ma foi, se déploient librement.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que là, on a l'impression d'avoir quelque chose d'évident qui se crée entre les musiciens, comme si une partition se crivait au fur et à mesure. Est-ce que le danger, alors si on peut parler de danger, c'est un danger à moindre, mais ce ne serait pas de répéter cette texture magnifique qu'on a réussi à avoir et qu'on a en plus fixée sur un disque. Ouais. C'est-à-dire que là, Dans les arbres, a réussi à avoir un objet fini, un résultat qui sonne, qui est beau. Est-ce que le danger de cette improvisation libre, c'est d'en faire quelque chose de figé, finalement?
Donc deux questions là dans la question. Il y a la question de l'enregistrement, qui est aussi une question extrêmement débattue parmi les musiciens, enfin notamment dans les écrits de Derek Bellet ou de Cornelius Cardew. Il est beaucoup question de ce rapport de l'improvisation libre à l'enregistrement et ce rapport d'inadéquation en réalité de l'improvisation libre à l'enregistrement qui est condamné à rigidifier justement quelque chose qui est de l'ordre de l'évanescent, du processus, de l'éphémère, etc. Bon, ça c'est un débat que je vais laisser de côté parce que il est en réalité plus philosophique, on dirait esthétique au sens très large. Une question qui est, je pense, beaucoup plus concrète pour les musiciens que celle de savoir s'il faut enregistrer ou pas leur musique, parce qu'en réalité les musiciens ont plutôt répondu positivement à cette question. voilà, il y a des tas de labels consacrés aux musiques improvisées, les musiciens eux-mêmes montent leur propre label, donc ils sont dans une logique de diffusion qui passe par l'enregistrement. Donc, je dirais d'une certaine manière, ils ont tranché le débat, ça ne passe pas que par le concert, loin de là. Donc la question peut-être qui travaillerait beaucoup plus concrètement les musiciens, ce serait, une fois que oui, en effet, qu'on a fixé ce son, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait l'improvisation d'après? Est-ce qu'on la répète? Et là, il y a autant de réponses à cette interrogation que de musiciens. Certains vont tout à fait admettre ce point de vue et dire oui, bon, c'est la musique qu'on fait. D'autres vont justement essayer de trouver des subterfuges, d'autres vont arrêter le groupe et en faire un autre.
Ce qui arrive souvent, parce qu'il y a beaucoup de groupes. Parce que là, par exemple, nous sommes en présence de musiciens qu'on rencontre dans d'autres groupes. Ça va être le cas, par exemple, de Michel Doneda et Joris Ruhl, qu'on va juste écouter maintenant. Qu'on rencontre donc Joris Ruhl dans le collectif Umlaut, où il joue dans énormément de groupes différents, avec un compositeur aussi, Karl Nejlen, qui s'amuse s'amuse à jouer sur ces sons issus d'improvisation libre pour en faire son matériau. Et puis Michel Donneda, c'est quand même l'une des grandes figures de la musique improvisée. Absolument, en Europe, parce ouais. qu'il a choisi à un moment, finalement, de ne plus parler de notes, mais nous ne sommes que dans une matière sonore. Oui. Là, tout d'un coup, on déplace vraiment vers le non-idiomatique complètement, parce qu'on n'est que sur une matière, une rencontre de matière, Clément Cannon.
On est plongé dans une matière sonore relativement restreinte, hein, mais qu'on va pouvoir écouter dans ses reliefs, ses moindres détails. Donc on est dans une musique qui est très proche d'un certain réductionnisme. Hein. Mais justement, ça ne veut pas dire qu'elle est moins libre ou moins spontanée, ou moins interactive que les précédentes, mais c'est cette liberté, cette spontanéité, cette interaction, eh bien, se joue à un niveau de détail beaucoup plus grand dans les petites vibrations du son, les petits déploiements plus ou moins fragiles d'un multiphonique, etc. Il y a comme un effet de zoom extrêmement fort et les interactions se déploient sur une plus petite échelle, peut-être à la fois de temps et de son.
Un extrait de Linge, un duo entre Michel Donneda et Joris Ruhl, très âpre, très, on va dire, très franc, très naturel entre ces deux personnes si on les connaît un petit peu, parce que humainement aussi ils ont ce rapport-là au son, à la matière et à la parole. Et Clément Cannon, merci d'être venu avec tout ça, parce que merci. Finalement vous êtes venu avec 4 extraits sur quantité d'enregistrements que vous avez dans votre ordi ou bien en disque, des choses assez inédites, et puis surtout tous les reportages, les interviews que vous réalisez avec des interprètes de l'improvisation libre, improvisation collective dans vos études, puisque donc vous êtes musicologue et chargé de recherche au CNRS sur ces histoires d'improvisation collective. On peut suivre toute votre activité sur apm.ircam.fr, on voit vraiment tous vos articles sur cette question de l'improvisation. Évidemment, nous ne vont pas évoquer plein de pans de cette improvisation libre, dont les solos, et qui est encore un autre problème. Peut-être une prochaine fois, on vous invitera encore.
Avec plaisir.
Merci beaucoup et au revoir. Et bonjour, Antoine Berland.
Portrait sonore, Antoine Berland.
Faites un son aigu.
Que pensez-vous de la musique? Musique, c'est ma vie.
Bonjour.
Dites bonjour.
Portrait sonore numéro 57, ça pète le rouge. Sainte Marguerite sur Duclair, mai 2016.
J'aime bien le rouge, ça pète le rouge.
Ça pète le rouge, c'est j'aime bien.
J'aime bien le rouge, bien le ça rouge. Pète le rouge, oui, j'aime bien le rouge.
C'est un vieux tube de l'été, hein.
Et
Macarena. Alors, c'est pas ma chanson préférée, mais c'est parce que ça me rappelle de bons moments à la chorale avec les copains. Donc, c'est Mirza, tout simplement, de Nino Ferrer. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza.
Ça pète le rouge. La 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 la.
J'avais pas vu Mirza. La 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche la la la. Où est donc passé ce chien? Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous faire tout le répertoire.
Fin de notre quatrième épisode du Cri du Patchwork sur la liberté. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avons aujourd'hui la technique Claire Levasseur. Merci à Flora Stanadel, toujours à l'affût du moindre son. Merci également à Antoine Villoz de la discothèque de Radio France pour nous avoir aidé à trouver plein de sons. La semaine prochaine, on part à la rencontre d'un artiste incontournable de l'improvisation libre, John Tilbury. Membre du duo AMM que nous évoquions avec Clément Cannon tout à l'heure, John Tilbury était à Paris le 22 septembre dernier pour la création de Sang, une œuvre imaginée à partir d'un texte de Samuel Beckett pour l'Onseim lors du festival Crac à l'église Saint-Merry à Paris. Une occasion rêvée de parler avec lui de liberté, de spontanéité, de moments et d'instants de musique. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, où vous pourrez également podcaster cette émission, ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants,
si je fais un, Togaram, un, parap. Deux, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. Un, voilà. Deux, trois. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montaron et Création Mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.